Antenne libre par Yann Moix sur Europe 1.
Henri, est-ce que ta tisane au gingembre est bonne?
C'est excellent.
Voilà. Tu trouves pas que c'est plus convivial quand on est autour d'une table?
C'est bien là, oui.
C'est bien. Pascal, est-ce que tu as fait connaissance tout à l'heure avec notre ami Bernard?
Alors oui, j'ai fait connaissance avec Bernard et c'est vrai que très vite on a sympathisé.
Oui, parce il est très intéressant Bernard.
Lui qui justement est pêcheur et nous on travaille des produits de la mer, je l'ai trouvé très intéressant.
Modeste.
Et honnêtement, oui voilà, il avait énormément de choses à nous apprendre, donc je peux lui laisser la parole.
J'aimerais que tu l'interroges, que on fasse un margoton, une margot interview, tu interviews Bernard.
Alors c'est drôle que tu dis ça parce que j'avais des questions à lui poser, mais je m'étais dit honnêtement.
Allez, c'est ton quart d'heure warolien, tu peux y aller.
Est-ce que
fais pas ta chochotte, Bernard par margot.
Et du coup, je me posais des questions, quel produit tu pêches? Où tu pêches, qu'est-ce que tu fais, parce que nous au final on vend plein de produits de producteurs locaux et la première question qui me vient c'est, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas travailler ensemble? Donc du coup, qu'est-ce que tu fais exactement?
Mais bien évidemment qu'on pourrait travailler ensemble. Comme je te l'ai dit quand nous sommes arrivés il y a quelques années en arrière, tu as parlé de camions où tu vendais des huîtres, nous, on voulait faire un fish truck. Alors, c'était intéressant et tout est lié, c'est-à-dire ce que tu fais et ce qu'on pourrait faire. Après, sur la Méditerranée, on travaille toutes les espèces. Aujourd'hui, la Méditerranée, spécialement le quartier de Port-Vendres, là où nous sommes, était basé sur la pêche au poisson bleu, c'est-à-dire la sardine et l'anchois. Aujourd'hui, pour des diverses raisons, on ne pêche plus la sardine et on pêche vraiment toutes les espèces, c'est-à-dire sole, merlan, rouget, loup, dorade, voilà. On pêche toutes ces espèces et une espèce emblématique et qui s'est pêchée sur l'étang de la Palme et qui est très intéressant, mais qui est une pêcherie qui est en danger, c'est l'anguille.
Ah, pourquoi mange... Bernard
anguille, ouais.
Pourquoi elle est en danger, cette pêcherie?
Mais parce que on a une réglementation qui est drastique, qui nous vient de l'Europe et qui est très compliquée.
Et pourquoi sur cette espèce particulièrement?
Alors que l'anguille, c'est un produit de vase, c'est pas forcément de la mer, c'est beaucoup dans les rivières.
Je précise que si Henri et Guillaume ont des questions à poser, ils peuvent intervenir quand ils veulent pour faire un peu plus vivant. Hein. Pardon, Bernard.
Oui, cette espèce se pêche spécialement dans les étangs, dans les lagunes. Voilà, la Palme, il y avait des pêcheurs qui pêchaient spécialement l'anguille. Aujourd'hui, on a mis une réglementation depuis 2009 qui oui. vient de l'Europe et qui était à 3 mois de fermeture. Et cette année, la Commission européenne vient de mettre 6 mois de fermeture. Et ça, c'est catastrophique pour tous les pêcheurs de l'anguille.
Et pour les amateurs d'anguille aussi. Parce qu'il faut savoir quand même que le plat traditionnel ici, qui est un plat... C'est une icône de la gastronomie de la Palme et de ses environs, pour la Nouvelle, de Leucate, de Gruissant, etc. C'est la bourrine d'anguille.
La bourrine d'anguille,
voilà, alors sur Europe 1. Ça a plusieurs noms. Par exemple, à Leucate, on appelle ça la pignata. Ici, y a les Catalans appellent ça la bourrinada. Et puis ici, on appelle ça la bourride.
Toujours sur Europe 1.
C'est un plat qui est extraordinaire. Un plat qui est extraordinaire. Il faut savoir que c'est fait de façon très simple. Il y a de l'anguille, de l'eau, du sel, du poivre, hein. Puis il y a quelques piments. Et puis ce qui fait la qualité de la sauce, c'est le sendou et l'ail, le saji qu'on appelle. C'est-à-dire que c'est ça avec un gros bouillonnement qui fait une sauce liée. C'est le bouillonnement de cette sauce qui fait une sauce liée. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les gens ne le connaissent pas, évidemment, mais quand ils le dégustent, ils trouvent ça toujours très bon. Alors, bien sûr, il y a toujours cette approche d'anguille qui ressemble à un serpent. Alors, il y en a certains qui disent « Oh non, ça ne me plaît pas parce que ça ressemble à un serpent ». Non, mais après, quand ils le goûtent, c'est un plat qui est très fin.
Oui, mon cher Guillaume, qu'il n'y a peut-être pas... On peut peut-être pas aller voir Pasolini en version originale à La Palme, mais il y a quand même, culturellement, dans un autre domaine, des grandes richesses, si je me fais l'avocat du diable, bien sûr.
Ah non, mais ça, je n'ai jamais dit le contraire. Hein. C'est juste, effectivement, hein, ce plat est excellent. Après, il y a aussi toute la culture autour du vin, mais ça, je pense que vous en avez déjà longuement parlé. Et même testé.
Dégusté, même.
Dégusté, tout à fait. Non, pour en revenir, effectivement, je ne suis pas, bien évidemment, contre la palme, au contraire.
On a bien compris.
Je suis tout à fait palmiste. Je voudrais simplement que les choses évoluent peut-être un peu trop vite.
C'est tout à votre honneur.
Peut-être un peu trop vite, effectivement. Et si je suis encore ici, c'est bien parce qu'effectivement, je ne m'y suis plus. Au bout de 17 ans, ce serait du masochisme.
Surtout qu'il y a beaucoup d'intellectuels, d'artistes, etc., qui ont aimé ce genre d'endroit un peu préservé du tumulte. C'est aussi une manière de réfléchir, de se retrouver. Par exemple, j'ai remarqué une chose, c'est que quand je lis à Paris, je me déconcentre très vite. Et j'ai beaucoup lu cet été à La Palme. Je me suis aperçu que ma concentration, quand je lis un livre ici à La Palme, est bien plus forte qu'à Paris. Je suis plus dans ce que je fais.
Et excuse-moi Yann, si tu peux me permettre.
Oui, on est dans le margoton.
C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parlait un petit peu de nous, machin. C'est vrai que nous, on est là tous ensemble. Les gens ne le voient pas, mais et on discute ensemble. Et presque, on pourrait se dire, bon, ouais, ils parlent que de poissons, que de la ville de Palme.
C'est merveilleux.
Mais c'est encore beaucoup plus grand que ça. Moi, quand je suis arrivé dans la région, alors c'est sûr que ce qu'il fait, c'est génial. Honnêtement, tout ce qu'on fait, c'est bien, enfin, je sais pas comment on peut le définir, mais il y a tout autre chose, comme dirait Guillaume, c'est que il y a une culture, il y a,
oui, mais ça on le sait, mais bien sûr, c'est un mode de vie qui s'inscrit dans une
qui
très vieille tradition.
Différent.
Mais moi j'ai une question à poser à Bernard, si tu me le permets. Tout à l'heure, quand je discutais avec vous, Bernard, vous me disiez que pêcheur était sans doute le métier le plus difficile qui soit. Moi, je suis d'accord avec vous, mais j'aimerais quand même que vous expliquiez à nos auditrices et auditeurs en quoi, pour vous, hein, qui est un homme d'expérience en la matière, le métier de pêcheur est si difficile. Pourquoi ? Je pose la question très simplement.
Mais, d'ailleurs, tout d'abord, il est très difficile parce que... il peut être très agréable comme il peut être très difficile.
Qu'est-ce qui est difficile ? Concrètement, entendre vraiment du concret, puisque nous, on n'est pas dans ce métier. On le connaît mal, voire pas du tout.
Se lever à 2h du matin, tous les jours.
Ça, c'est concret.
5 jours sur 7. Travailler de 3h du matin jusqu'à 18-19 heures le soir, non-stop, dans le froid, dans le vent et dans la tempête. Et c'est ça qui est difficile. Et je vais me permettre, puisque vous me donnez l'occasion.
Je vous en prie.
En plus de tout ça, de cette difficulté au quotidien que les marins subissent, notre métier devient encore plus difficile par ce qu'on vient de dire il y a 2 minutes, par cette réglementation européenne.
Les normes.
Qui devient catastrophique. Catastrophique. Et je le dis haut et fort, on faisait un métier, un de passion et deux de liberté. Aujourd'hui, la liberté, on l'a perdue complètement.
Mais au nom de quoi ? Est-ce que c'est pour la préservation des espèces ? C'est pour des raisons économiques ? Quelle est la raison de ces normes, de ce formatage européen ? C'est quoi ce qu'il y a derrière ? Expliquez-nous. Ce n'est pas forcément clair pour ceux qui sont extérieurs au domaine.
Mais parce qu'aujourd'hui, on ne connaît rien sur les espèces. Les ONG tapent sur le pêcheur. Dès qu'il y a un problème, c'est le pêcheur. Et comme on ne connaît pas bien les espèces, eh bien, on restreint le pêcheur, sans connaître. Et aujourd'hui, et l'État, l'Europe et le président de la République a dit il faut travailler avec les scientifiques, il faut connaître toutes les espèces. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Il a enfin dit une chose intelligente.
Oh, dis donc, t'es dur avec Bernard, il ne dit que des choses intelligentes depuis tout à l'heure.
Non, pas Bernard, mais le président.
Ah, Macron. Non mais Bernard, ce que je voudrais comprendre, c'est que vous avez l'air de dire que ceux qui font les lois, qui édictent les règles, finalement ont une méconnaissance du terrain concret. C'est-à-dire qu'ils édictent des règles à partir de, sans doute, d'études qui ont été faites, mais ils ne sont jamais coltinés à la difficulté du métier. C'est ça aussi que vous dites, que vous dénoncez.
Ce ne sont pas
des pêcheurs eux-mêmes, donc ils ont du mal à savoir comment vous vivez.
Tout à fait. Ils ne prennent pas conscience de la réalité. Ils ne viennent pas sur le terrain.
Ah, il y a Alain qui nous rejoint. Alain nous rejoint sur Europe 1. Mon cher Alain, quel plaisir de t'accueillir. On est avec Bernard, on va leur donner la parole.
Bonsoir à tous, je vois qu'il y a Bernard qui est en pleine conversation.
Il a emmené du vin.
Bonsoir à tous. Donc, comme hier, malheureusement, on t'a cassé un verre, Yann, et que j'ai vu que tes verres n'étaient pas sérigraphiés, je viens de t'amener une série de 6 verres afin que vous puissiez boire le nectar.
Il est quand même incroyable.
C'est bien meilleur. C'est
il a emmené les verres, mais il n'a pas emmené le vin.
Puis-tout-nous aussi recevoir, vous inquiétez pas. Et Bernard, excusez-moi Bernard.
Non, mais c'est toujours un plaisir de t'accueillir, ma chère Alain. Bernard, je vous redonne la parole.
C'est
important.
Ce qu'on disait, c'est que vraiment, nous n'avons pas des gens qui viennent sur le terrain et qui connaissent notre pratique. Et je vais dire ça, en Méditerranée, on a une pratique. En Atlantique, ils ont une autre pratique, mais alors que la réglementation elle est pour tout le monde la même, et c'est incompréhensible.
Mais t'as complètement raison, parce que le problème aujourd'hui, c'est que, et sans rentrer dans la politique, parce que je ne suis absolument pas là-dessus, c'est que vous avez une Jocelyne Bachelot qui va devenir ministre de la Santé.
Assieds-toi, là, assieds-toi. Enfin,
en fait, c'est des gens qui ne connaissent pas. De quoi ils parlent. C'est des gens qui ne comprennent pas de quoi ils parlent. C'est des gens qui ne savent pas ce que toi tu vis au quotidien, la biodiversité, la régulation de l'espèce, machin. C'est des choses que les gens ne connaissent pas. Et par contre, ben, malheureusement, on vous impose des règles qui sont faites par des gens qui n'y connaissent rien.
Mon cher Bernard.
Excuse-moi, peut-être que je dis une bêtise.
Je me permettrai pas de dire qu'ils connaissent rien, parce qu'ils doivent connaître un peu. Si on a envie de bien connaître le sujet, on se renseigne et on apprend et on connaît. Mais c'est une évidence. Aujourd'hui, et j'insiste là-dessus.
Excuse-moi, moi aussi, je peux très bien me renseigner sur la pêche, mais je ne serai jamais un pêcheur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les formations que tu veux. Il n'y a pas meilleure personne et compétente qu'un pêcheur. Aujourd'hui, je serais incapable de te dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, on vous impose des règles qui sont faites par des gens qui...
Mais c'est pareil, on en parlait hier avec Alain. C'est la même chose dans le vin, Alain, les règles. Les normes.
Les normes sont faites, on nous explique que c'est les professions qui ont fait les normes. Et en fait, quelque part, la profession a dit oui à des instances qui nous les imposent plus ou moins. Quoi. Donc,
c'est exactement ce que je dis.
Oui, il y a des normes,
c'est
des
gens qui ne connaissent rien.
On nous explique que c'est notre faute, mais en fait, elles sont plus ou moins subies. On en accepte pour pouvoir continuer d'avancer. Quoi.
Comment il s'appelait l'ancien ministre de l'Agriculture ?
On ne va pas rentrer forcément là-dedans. Je voudrais savoir si le jeune Yanis, qui est le fils de notre ami Alain, était d'accord pour nous dire quelques mots. Parce que moi, je suis très presque ému par les études que tu fais, Yanis. Tu es en première et j'aimerais que tu nous dises dans quelle première tu te trouves actuellement.
Je suis en première pêche au lycée maritime de Sète.
Tu as 17 ans, Yanis.
17 ans.
Parle-nous un peu de ta passion pour ce métier que tu veux faire, la pêche.
Ben, c'est un métier très, très dur, mais pour moi qui me passionne beaucoup parce que j'aime bien les poissons, me lever tôt le matin et me dire que je vais avoir tant de poissons. C'est un métier qui me passionne beaucoup.
Tu connais bien les espèces ?
Oui, je connais la plupart des espèces.
Tout de suite, tu reconnais à qui tu as affaire, si oui. Et je crois savoir que tu adores La Palme.
Oui, j'aime bien La Palme parce que c'est une ville avec... je ne sais pas comment dire, mais...
Attention Yanis, toutes les nanas t'écoutent de La Palme. Hein. Donc ne fais pas le con.
Henri, ça doit te faire plaisir de savoir...
Non, mais à un moment donné, il va falloir que... Parce que là, si tu veux te vendre, c'est aujourd'hui. Hein.
Henri, ça doit te faire plaisir quand même qu'un jeune comme ça de 17 ans adore La Palme, va se consacrer à la pêche quand même. C'est chouette.
Il adore La Palme, mais il y a un peu de... Il y a des gènes quand même. Hein.
Oui, le père a des raisons.
Et puis, pour la
il
pêche...
Il me semble que ça a transpiré
il faut savoir quand même... Effectivement. Il faut savoir quand même une chose. Bon, Bernard dit haut et fort les choses. Hein. Alors quand j'ai connu Bernard, moi, je l'ai connu sous le maillot de l'USP, de Sijan pour la Nouvelle, un très bon joueur de rugby. À l'époque, je ne savais pas qu'il était... Je savais qu'il était pêcheur, mais enfin, je le connaissais surtout comme un matelot. Quoi. Et donc, Bernard, au-delà de la pêche, est représentant des pêcheurs. C'est-à-dire qu'il est, il est président du comité des pêches du Languedoc-Roussillon et puis il occupe aussi des instances nationales. Et Bernard dit haut et fort ce qu'il faut dire. Il le dit à l'administration. Et il faut pas croire quand même que les choses se font comme ça. Il y a quand même une, toute une structuration. Tout à l'heure, on parlait des, du lycée de la pêche qui existe, mais autour de la pêche, il y a quand même pas mal de choses. Parce que dans cette région, on essaie de mettre en place des structures, notamment, par exemple, il y a le Parlement de la mer, dans lequel ce Parlement de la mer qui dépend du Conseil régional, eh bien, ce Parlement de la mer permet d'exprimer un petit peu toutes ces préoccupations et de les faire remonter. C'est un des vecteurs. Et puis, dans ce Parlement de la mer, on parle aussi de la formation. On parle aussi de formation parce que les métiers de la mer et ceux de la pêche en font partie, demandent énormément de main-d'œuvre et demande énormément de formation et manque énormément de main d'œuvre. Donc la mer, c'est quelque chose, c'est une grande richesse. Il faut replacer le propos de Bernard dans son contexte. La mer est une grande richesse qu'il faudra savoir exploiter.
D'accord. Je fais une petite annonce pour vous dire que Nicolas Carreau nous présente La Voix est libre le dimanche de 14h à 15h. Excellente émission, pour être honnête. Et demain, dimanche 26 mars, il recevra Philippe Djian pour son roman Sans compter, le pauvre. Et il ira visiter la bibliothèque de Charles Berling. Je plains toujours les gens qui lisent Philippe Djian. Sur Europe 1, qu'est-ce que je voulais vous dire, Margot Pascal, est-ce que tu pourrais poser une question à Guillaume? Alors, et puis ensuite, on retourne vers Yanis quand même.
Oui, mais alors, si ça ne dérange pas...
Non, mais c'est quand même mon émission, donc j'aimerais te poser une question à Guillaume.
T'as raison, ouais. Et c'est vrai, Guillaume, c'est vrai que depuis que t'es arrivé, je te sens tendu. Mais,
tendu.
Mais tendu.
Mais sympathique, hein.
Et, mais très sympathique.
Très sympathique, mais tendu.
Mais bien sûr, on s'est salué, il n'y avait aucun problème, machin. Et du coup, le peu de questions que je t'ai posées tout à l'heure, au final, je ne me rends pas compte de ce qui ne va pas. Et je me dis, il est tellement tendu, c'est qu'il y a un truc. Donc, au lieu de chercher à droite et à gauche, on va lui poser la question.
On va crever l'abcès, en fait.
On va crever l'abcès. Qu'est-ce qui ne va pas?
Tout va bien. Tout va bien.
Mais non, mais tu peux pas être aussi tendu, aussi.
Non, mais attends, il est peut-être aussi, il est pas non plus peut-être dans un environnement qu'il connaît bien, etc.
Non, mais c'est pas facile. C'est vrai que pour nous, c'est une première.
Moi, je trouve qu'il est très sympathique. Il a le courage de dire la vérité.
Mais bien sûr,
et en plus, c'est pas si noir que ce que tu m'avais annoncé.
Mais c'est non. Franchement,
mais du coup, je me dis, mais il y a un point noir quelque part.
Il y a pas de point. Il y a 17 ans, j'en attendais beaucoup trop. Maintenant, je me suis totalement adapté. Cet après-midi, j'ai roulé toute l'après-midi en moto. Ça a été magnifique.
Qu'est-ce que tu attends d'un département, enfin, tu vois, c'est un truc que je ne comprends pas. Tu vas dans une nouvelle région, les gens sont adorables. Excusez-moi, je ne me rappelle pas de tous les prénoms.
J'en prie, c'est Henri.
Henri,
attention, là, tu vas me fâcher. Non.
C'est à moi que
tu vas présenter des excuses.
Je te présente mes excuses. Voilà. Je suis désolé.
Il y a des sujets, Pascal, je préfère te dire sur lesquels j'ai de l'humour. Sur moi, j'ai de l'humour, mais oui. Sur Henri, je n'en ai pas. Bon. Mais si je puis me permettre.
Mais tu as complètement raison. Je te présente mes excuses.
Ouais, merci. Elles sont acceptées, mais fais attention. Sur ce sujet.
Excuse-moi, mais pour nous aussi, c'est nouveau.
C'est vrai que tu connais pas encore tout le monde. Tu viens d'arriver.
Et puis nous, c'est nouveau aussi pour nous. Nous, on se connaît depuis 15 ans, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça. Donc c'est pas forcément un exercice facile. Donc du coup, je me dis, mais putain, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui gêne?
Je répète, il n'y a rien qui gêne. Je donnais.
Alors pourquoi cette bonne humeur comme ça là? Je comprends pas.
Ça c'est naturel. Ça c'est différent. C'est mon état naturel.
On va pas faire le procès de Guillaume qui est quand même.
Je ne suis pas le plus joyeux de toute cette bande là.
Eh bien, bienvenue au club. Hein, on est deux. Hein.
Oui, voilà. Donc effectivement, j'ai plutôt tendance à être sérieux.
Mais c'est tout à votre honneur, moi je suis comme vous. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux gens, Pascal.
Non.
Je ne voudrais pas que là ça tourne au procès de Guillaume, qui a la gentillesse de venir.
Absolument pas.
Et qui a l'air. Qui dit quelque chose qui est très juste quand tu. Il y a une publicité. Non, contre, on va en parler après parce qu'il y a une publicité qui doit être partie.
Pourquoi
Tu te tais. Et à propos de poésie, nous sommes toujours avec nos amis. Et je propose que nous reprenions la conversation, mon cher Henri, là où elle s'était arrêtée.
Et avant, je ferai une petite parenthèse culturelle après ce magnifique morceau que nous venons d'entendre sur Europe 1. On a entendu de l'orgue pour parler de Pierre Cochereau. Parce que Pierre Cochereau, qui était un grand organiste, un célèbre organiste, et qui jouait notamment sur l'orgue de Notre-Dame de Paris, venait régulièrement à Sigean parce qu'il était très ami avec M. Charles Frances, qui était un Sigeanais. Et Sigean, du coup, est devenu une ville où l'orgue a été mis en exergue. Et d'ailleurs, l'orgue a été restauré il y a quelques années. Il y a un orgue sympathique dans l'église de Sigean. Et nos voisins de Sigean donc, avaient le privilège d'écouter Pierre Cochereau sur leur orgue.
Tu sais qu'on vient de perdre 100 000 auditeurs.
Mais non, tu sais que l'orgue est un instrument que les auditeurs adorent.
C'est un très bel instrument, ouais.
Mais toi, tu aimes peut-être plus la techno que l'orgue, mais tu sais que
l'orgue... Non, c'est pas la techno, moi. Non, mais c'est vraiment un petit peu de tout, quoi. Donc,
l'orgue, c'est universel et c'est intemporel, Pascal.
Intemporel, ouais. Et du coup, donc, on n'a pas fini la présentation de comment... Excuse-moi, j'ai oublié ton
prénom. Bernard, dis donc, ouais. T'as la mémoire courte ce soir, hein.
Et j'ai la mémoire courte, mais c'est vrai qu'effectivement, on a passé une très bonne soirée et elle n'est pas finie et on va bien se marrer.
Moi, j'aimerais que Bernard nous parle un petit peu de la pêche. On a parlé de la pêche, des poissons, etc. Mais les techniques de pêche, la taille du bateau, les filets, si les parties de pêche en bateau, je n'appelle ça les parties, ce n'est pas les parties. Mais ces sorties de pêche.
C'est sûr qu'on va se taper toute la taille.
Si ces sorties de pêche en bateau durent une journée, deux journées, ce métier de la pêche, parce que c'est intéressant, les gens ne le connaissent pas. Et ça serait bien que tu en parles un petit peu, Bernard.
Merci pour ta très très bonne question, Henri. Et comme tu le dis, alors nous avons l'essence même des métiers de la pêche en Méditerranée, c'est un métier de polyvalence. Ça veut dire que on pêche comme les fruits et les légumes, on pêche les poissons à la période, c'est-à-dire que quand il y a la dévalaison, par exemple, des dorades, on pêche la dorade qui commence en septembre, octobre, qui va jusqu'à la fin de l'année. On pêche cette espèce-là. Et ça, c'est l'essence même polyvalence. Après, sur les lagunes, nous avons des bateaux de 5 à 6 mètres de long et on travaille à la journée, spécialement... l'anguille, mais de moins en moins, la dorade, le loup, Il y avait les temps de taux à 7, où à l'époque, on pêchait beaucoup les palourdes, mais c'est une espèce qui ne se pêche plus.
Mais pour la mer, vous avez une grosse embarcation, là.
En bord de mer, c'est-à-dire les petits métiers, nous avons des bateaux de 8, 10, 12 mètres, et qui vont jusqu'à 18 mètres. Voilà, ça, c'est la pêche côtière. Après, nous avons la pêche, et celle que je pratique spécialement moi, c'est la pêche chalutière, et qui est le métier le plus structurant. Mais...
Ça fait combien de mètres, là, le bateau ?
Alors, les bateaux, c'est de 20 à 25 mètres. Voilà, c'est des bateaux de 20 à 25 mètres où il y a 5 à 6 personnes à bord qui travaillent.
Avec des moteurs très puissants.
Avec des moteurs. Alors, nous sommes bridés à 316 kW. Mais on a des moteurs en conséquence. Voilà.